BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. On s'inquiète à juste titre du dérèglement climatique, mais moins de l'accélération brutale de nos modes de vie, tant personnels que collectifs. C'est ce que nous dit le professeur Guy Valencien dans son dernier livre « À la recherche du temps perçu » aux éditions Librinova. Le groupe April, leader du courtage grossiste en France, a renouvelé sa fondation pour une meilleure utilisation de la prévention grâce à l'étude des sciences comportementales. Éric Momier, président du groupe April, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Enfin, si vous voulez mieux entendre votre téléviseur en optimisant le son des voix, écoutez clairement ce que vous propose Mehdi Chati, directeur général de Sonoro et de son dernier né Oscar. Check-up Santé, l'émission santé la plus claire, c'est parti. Guy Valencien, bonjour.
Bonjour, cher Fabien.
Ravi de vous revoir pour la 252e fois.
Au moins 2000.
Santé.
Au moins 2000.
Au moins 2000. Alors, on va bien sûr raccourcir votre CV, hein, qui est long comme mes deux bras et mes deux jambes. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et de chirurgie. Vous êtes président fondateur du célèbre congrès CHAM, le véritable Davos de la santé. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à succès, dont La médecine sans médecin, Homo artificialis, et votre dernier bébé s'appelle À la recherche du temps perçu aux éditions Librinova. Alors, à la recherche du temps perçu, à la recherche du temps perdu. On a l'impression que vous êtes le huitième tome de la série de Proust. On a l'impression que c'est un livre assez proustien, dans le sens où vous parlez d'identité personnelle, la recherche de la beauté, regarder autour de soi. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai lu votre pitch, j'ai pensé aux personnalités des gens qui sont connus, obèses, qui font un régime, qui maigrissent de 30 kilos et qui d'un seul coup sortent un livre. Parce que vous prenez la lenteur, mais on peut pas dire que vous êtes un exemple. Vous avez passé votre vie à courir, à créer, à diriger, à inventer. Et là, maintenant, vous nous dites, il faut se ralentir.
Mais je suis comme tout le monde. C'est vrai que j'ai vécu une vie trépidante en tant que chirurgien. En tant que chirurgien. Mais je m'aperçois, c'est peut-être l'âge aussi qui fait ça. Je n'en sais rien. Mais en regardant le monde, on s'aperçoit que nous sommes de plus en plus bouffés par une accélération du temps chronologique. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur le temps perçu, notre temps biologique, qui est à son rythme à lui.
Mais c'est maintenant que vous le réalisez ou vous le réalisez quand même? Vous l'avez réalisé progressivement ces dernières années?
Alors j'étais capable d'être très paresseux et de prendre beaucoup de temps ou de ne rien faire en même temps. Donc je m'activais, mais je pouvais aussi me reposer. Ouais. Mais il est clair qu'actuellement nous sommes dans une dérive chronométrique.
Donc c'est pas une rédemption donc?
Non,
non,
non, non,
c'est
non,
pas
non.
Une rédemption.
C'est une évolution naturelle. D'accord. Au fil du temps. Voilà, mais pas du temps chronologique, du temps biologique.
C'est-à-dire?
Eh ben, le temps biologique, il est celui qui nous relie au cosmos. Nous sommes des êtres d'ombre et de lumière, et de jour et de nuit. Et avec les outils d'aujourd'hui, les ordinateurs, les smartphones qui nous éclairent les yeux toute la nuit, on ne dort plus. Avec l'accélération du temps chronométrique, on court après je ne sais quoi. On ne sait pas où on va, ni quoi faire une fois arrivé. Et on voit bien le désordre planétaire dans lequel on est, notamment dans notre vieille civilisation européenne qui ne sait plus où elle est. Et donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on se pose. Il ne s'agit pas de décroître. Je ne suis pas un décroissantiste comme les Khmer Verts. Pas comme Cochet
comme
qui veut venir
à la
charrette à cheval.
Ouais.
Mais il faut croître en fonction de nos besoins réels et notamment du rapport Nord-Sud. Et cela, ça m'intéresse de voir que la France là-dessus est...
Vous êtes quand même assez stressé sur notre futur qui, vous dites, va nous bouffer. Il peut finir par nous bouffer.
Si on continue à la vitesse à laquelle on va et avec cette luminescence permanente que nous recevons, on va devenir l'homo numericus que je décris, c'est-à-dire un bonhomme avec deux énormes yeux, des très gros pouces pour pianoter sur son smartphone, des toutes petites jambes, un dos scoliotique et un cerveau minuscule. Donc, alors que toutes les technologies d'aujourd'hui numériques devraient nous libérer d'un tas de contraintes pour nous permettre d'être dans l'innovation, dans l'invention et dans la collaboration.
Alors, évidemment, vous ne parlez pas que de ça qui est très original par rapport aux autres lieux. Vous ne parlez pas que de santé.
Non.
Mais vous dites quand même que cette façon de pratiquer notre vie est vraiment délétère pour notre santé.
Ah mais complètement. Vous savez qu'on est très simplement on est relié donc à la lumière et à la pénombre. Je l'ai dit. Ce sont les cellules à mélanopsine qui sont dans la rétine et qui rejoignent ce qu'on appelle les corps supra chiasmatiques, deux petites zones d'1 cm² de chaque côté dans le cerveau 10 000 neurones chacune et qui renvoie un tas d'informations à tous les organes. Chaque organe et chaque cellule de mon corps a une horloge biologique, mm-hmm. qui n'est pas une horloge avec des secondes, des minutes et des heures, oui. mais une horloge biologique qui dit à la cellule de faire ce qu'elle a à faire au moment où il le faut. Or, notre vie d'occidentaux trépidants a bouleversé ces rythmes. À la fois, nous ne dormons plus parce que, à force d'être éclairés en fin de soirée, ben, la mélatonine ne sait plus quoi faire et on fait des cauchemars.
Sans parler des adolescents qui passent leur nuit sur les écrans.
Mais absolument, c'est absolument délétère. Là, il va falloir prendre des décisions drastiques pour empêcher la dégradation cérébrale progressive que l'on pourrait avoir. Oui. Et on voit bien que le monde entier court à sa perte si on ne. Il faut proposer de la lenteur, oui, revenir à un rythme qui corresponde au rythme naturel que nous avons toujours connu. Nous sommes formés de millions d'années, de milliards d'années d'évolution, et c'est pas en moins d'un siècle, en un siècle et demi, nous avons accéléré. Rappelez-vous qu'en 1820, la diligence qui allait de Paris à Lyon n'allait pas plus vite que le char du cirque de l'Empire romain. Et puis tout d'un coup, en un siècle et demi, on a explosé la vitesse des transports, de la production industrielle, des communications, des connexions, et on ne sait plus où on est.
Ouais, mais pour ne parler que du médecin, c'est difficile pour un médecin d'avoir des horaires très particuliers. Par définition, le médecin n'a pas d'horaire.
Alors, tout à fait.
D'ailleurs, il est souvent plus malade que les autres.
Oui, ouais. c'est une vraie question, parce qu'effectivement, si on veut être un bon médecin, il faut être bien dans sa peau. Et bien dans sa peau, ça veut dire qu'il faut savoir aussi s'arrêter et ne pas aller jusqu'au burn-out, car cette accélération du monde aboutit à du stress, de la dépression, du burn-out, voire du suicide, pour la partie psychologique. Et pour la partie physique, on voit le diabète, les cancers du sein, le diabète est dû à la dérégulation de nos chronomètres biologiques. Le cancer du sein, 30% de plus de cancer du sein chez les infirmières, les aides-soignantes qui travaillent la nuit. On en fait quoi de ça ?
Alors, là aussi, on est dans un monde, vous dites, les nouvelles technologies font qu'on reçoit des informations, trop d'informations. C'est comme les impôts, trop d'infos, tue l'info ?
Complètement.
Oui. Complètement. Une bouche qui se casse une jambe en Chine, on est au courant 3 minutes après.
Oui, et nous sommes là dans un monde qui, cultive l'angoisse. Avant, on s'arrêtait au café du village. Avec un petit verre de blanc sur le zinc, on racontait un peu n'importe quoi, mais ça s'arrêtait au village. Aujourd'hui, on est des milliards, on est 8 milliards de villages planétaires, chacun pouvant communiquer avec l'autre comme ça, en envoyant n'importe quoi, avec des pseudos, ce que je trouve absolument scandaleux, de se cacher derrière une fausse identité, c'est la honte totale. Et donc, on aboutit à une désespérance, on voit les titres des chaînes en boucle, qui sont toujours des titres extrêmement angoissants pour faire tenir le téléspectateur présent devant l'écran.
Est-ce que l'intelligence artificielle vous fait plus peur que espéré ?
Ah non, pas du tout. Je pense qu'elle est immensément utile. Elle nous apporte. D'abord, je n'aime pas le mot intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est un mauvais terme. C'est de l'imitation artificielle. Car avant de faire ce que nous faisons avec nos quelques millions, centaines de millions de neurones, il y a du temps à voir. Donc c'est de l'imitation artificielle, on voit bien avec ChatGPT, qui est un truc tout à fait étonnant. J'ai regardé pour ma spécialité le diagnostic, tout est sorti en 10 secondes. Mais de temps en temps, quand les données ne sont pas précises, la machine part dans tous les sens. Ouais.
Et donc, heureusement d'ailleurs.
Heureusement, ouais. c'est là où, exactement où nous restons les maîtres. Et je pense que oui, à l'intelligence artificielle, attention à ces dérive bien sûr, mais je suis un fervent défenseur de son adoption dans tous les domaines de l'activité humaine pour nous libérer et pouvoir se retrouver, échanger, vivre, faire de la musique, créer.
Alors vous dites qu'on s'inquiète, à juste titre, du dérèglement climatique, mais moins justement de cette accélération brutale de nos vies, aussi bien personnelles que collectives.
Oui, je suis très frappé de voir j'attends la Greta Thunberg de la rapidité. Je veux dire, ou de la lenteur, qui puisse à l'ONU dire arrêtez. Elle n'a pas. Même les jeunes ne sont pris dans le système, totalement accros. Ils sont bouffés par le système. Nous sommes tous bouffés par le système. Ouais. Et c'est une urgence. Mm-hmm. Une urgence sanitaire, une urgence sociale, une urgence personnelle.
D'autant qu'on est maintenant, avec les datas, on est tracé, surveillé.
Effrayant.
Encadré, déresponsabilisé, privé même d'initiative.
Oui. Parce que tout est fait avant et on n'a plus le droit de dire c'est watch your step en permanence, c'est checker. On regarde sur les contrats que l'on passe aujourd'hui entre différentes entreprises et autres. Avant, c'était top là dans la main, comme les maquillons. Ouais. Aujourd'hui, c'est 50 pages, si c'est pas 100, avec la compliance, le service juridique,
sécurisation,
le siège là-haut, c'est effrayant.
À tous les étages.
On ne fait plus rien.
Pour finir la dernière phrase, vous dites le mot lenteur rime tout naturellement avec fraîcheur et bonheur.
Mais oui, bien évidemment, parce que en ralentissant, on va retrouver, on aura plus trop chaud, et puis on va découvrir le bonheur, c'est-à-dire l'échange entre nous, entre les hommes et les animaux, entre les hommes et les plantes et les animaux, la Terre, la vraie planète, celle qui tourne gentiment pour nous faire vivre.
Bon, donc je conseille à tout le monde de lire à la recherche du temps perdu.
J'espère bien.
Le 9e tome de Proust.
Exactement.
Merci, on se retrouve à Cham. Merci beaucoup, Guy Valencien.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Éric Momy, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes le président du groupe April, qui est un groupe franco-français, n'est-ce pas ?
Absolument.
Alors vous êtes le leader en France du courtage grossiste. Alors il faut nous expliquer quand même ce qu'est le métier de courtier grossiste.
Alors un courtier grossiste, c'est un courtier de courtier. Alors quand je vous ai dit ça, je ne vous ai pas beaucoup
pas
aidé.
Pas vraiment, effectivement.
Donc notre métier consiste à concevoir des solutions d'assurance. On le fait plus vite que les assureurs parce qu'on est très proche des besoins des assurés, notamment à travers les courtiers de proximité dont je vais parler. Puisque c'est pour eux qu'on conçoit ces solutions, on va chercher des assureurs, des porteurs de risques, et ensuite on va distribuer ces solutions d'assurance à travers en l'occurrence 15 000 courtiers de proximité en France pour toucher les assurés finaux, puis on va tout gérer. On fait ça en France, d'accord, mais on fait ça dans le monde entier également, pour plein de types d'assurances.
Oui, vous êtes présent dans 18 pays, je crois, non ?
On est présent en propre dans 18 pays, et ouais, il se trouve que à travers une de nos activités, qui est l'assurance santé internationale, donc qui consiste à accompagner des communautés d'expatriés, qu'ils soient français ou toute nationalité dans le monde entier, en fait, on opère partout dans le monde.
Donc vous avez une vision un petit peu globale de la santé dans le monde ?
On a une vision plutôt macro de la santé, ouais, en effet.
Ce qui vous permet un peu parfois de comparer certains systèmes de santé.
Exactement, et de voir qu'on a beaucoup de chance
et de
en
pas
France.
Assez dire voilà, et de pas assez dire aux Français qu'on a beaucoup de chance d'avoir un système comme comme le
beaucoup
nôtre.
Beaucoup de chance.
Alors vous avez pris aussi le train de la digitalisation mais sans perdre le côté humain, c'est ça ?
Absolument.
Parce que vous le revendiquez aussi pas mal.
On le revendique. On est dans un monde dans lequel le digital, on l'a tous compris, c'est un moyen extraordinaire de mieux servir nos clients. Et si je reste sur le domaine de l'assurance santé, quand même le sujet du jour, qu'est-ce qu'on a fait à travers le digital ? On a créé un hub chez April qui s'appelle AprilX, X pour expérience client. On a commencé par permettre à nos assurés, dans la seconde après qu'ils se soient assurés, d'avoir leur carte de tiers payant dans leur téléphone portable. On appelle ça le wallet. Mm-hmm. Et puis surtout, on a donné plein de services dans ce téléphone portable, des services aussi simples que comment j'accède à mes réseaux de soins, comment j'ai été remboursé, mais on va beaucoup plus loin puisque notamment, et ça a été une des choses portées par les assureurs en France, il y a eu le développement de la téléconsultation, donc c'est des services qu'on développe à travers nos outils numériques, mais en faisant attention à un point, c'est qu'en France, il y a toujours une fracture digitale, donc on ne va pas qu'à travers le digital, parce qu'on a plein d'assurés de tous âges, de tous milieux sociaux, qui ont besoin d'avoir accès à nos services de manière différenciée.
Qui ont besoin de dialoguer avec des gens, avec des vrais humains.
Exactement, et on a plein de vrais humains chez nous, on a 2400 salariés, donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de beaucoup d'humains.
Alors, on le dit souvent, parmi les pays de l'OCDE, on est les rois du zéro reste à charge, mais en fait, on est quasiment dernier dans le domaine de la prévention.
Alors, ça, c'est un des paradoxes français, effectivement, vous l'avez souligné. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle un système hybride. Donc avec la sécurité sociale qui rembourse, et puis derrière, on a ce qu'on appelle les assurances complémentaires santé, tout le monde appelle ça sa mutuelle, qui permet d'avoir un reste à charge extrêmement faible. Et en fait, notre système, depuis l'après-guerre, depuis 1945, en fait, c'est un système qui a été basé sur le fait qu'on allait soigner les gens, mais pas forcément les avoir en bonne santé, j'insiste là-dessus.
Exactement.
D'ailleurs, la sécurité sociale, elle rembourse, mais on n'est pas très bon dans la prévention, alors qu'on est dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire qu'on investit quand même, je vous donne le chiffre, 15 milliards d'euros par an dans la prévention, ça fait un peu plus de 220 euros par Français et par an, avec
donc,
des résultats
décevants. Donc, à dépenses égales, résultats divers et variés, on va dire.
Ah oui, on a quelques éléments de comparaison qui montrent qu'on peut largement mieux faire.
Et c'est la raison donc pour laquelle vous relancez votre fondation April autour de la prévention, c'est ça, mais de façon un peu originale.
Exactement. Alors, Pourquoi autour de la prévention? Parce qu'on a compris que c'était un enjeu absolument massif. On a un système de santé qui a été créé, on le sait, pour gérer des gens plutôt jeunes avec des maladies aiguës. Et puis, il se trouve qu'on est avec des gens plutôt vieux, qu'on a des maladies chroniques. Donc, on voit que notre système de santé, il souffre énormément. Et il y a un moyen, et d'ailleurs, le président de la République l'a bien compris, puisque dans le dernier programme, celui qui a permis d'être élu, il a dit que la prévention allait être un élément absolument clé de nos politiques de santé, et notamment autour de l'assurance santé. Et nous, on a dit qu'on allait, avec notre fondation April, qui est une fondation qui existe depuis 2008, qu'on a renouvelée à plusieurs reprises, et là, on s'est dit, ce thème de la prévention, il est majeur pour l'avenir, et on va le prendre sous un angle...
Vous allez l'appréhender sous un angle assez original.
Exactement, qui est l'angle des sciences comportementales. Parce que vous pouvez mettre beaucoup d'argent dans la prévention, j'y faisais référence tout à l'heure. L'État met 9 milliards d'euros dans des politiques de santé globale, dont on peut dire qu'elles ne touchent pas forcément leur public. Je vous donne un chiffre. Le 5 fruits et légumes par jour, ça parle à 15% des Français. C'est-à-dire qu'il y en a 85% pour qui ça ne veut rien dire.
Évidemment.
Donc le but, c'est d'arriver à travers les sciences comportementales,
les gens sont
à voir
mieux,
comment on va toucher
sont
les gens.
Ils sont plus informés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux formés.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est un des enjeux de la Fondation. Si je vais un peu
donc
plus loin...
Donc c'est la prévention de la prévention, en fait. Vous étudiez les comportements...
Alors, exactement. Ouais. On a réuni un comité scientifique sous la houlette de Céline Falco, qui est une médecin urgentiste de SOS Médecins. Je sais que vous receviez tout récemment le président. La semaine dernière. Et on a réuni des sociologues, des psychologues, on a réuni des neurologues qui vont travailler justement sur comment on fait pour apporter aux Français une culture de la santé, d'une part, et deuxième chose, une culture de la prévention. Et on a décidé, parce que c'est pas qu'une fondation qui est là pour financer les projets, on est une fondation agissante, et donc on va s'attaquer à deux thèmes vraiment d'actualité. Le premier, vous l'avez entendu, c'est que le gouvernement prévoit une consultation à 25 ans, 45 ans, 65 ans. Et nous, on va zoomer sur la population des jeunes adultes. D'ailleurs, le président de SOS Médecins, il souligne que lui, 25 ans, c'est un peu tard à ses yeux. Donc on va essayer d'aller interroger des populations, et pas que des étudiants branchés e-santé, etc. Mais on va essayer de toucher tous les publics, notamment
large,
ceux qui n'accèdent pas à la santé, pour voir comment ils appréhendent cette question de la santé. C'est quoi le bon moment? C'est quoi la manière de les toucher? Puis on va aller sur un deuxième terrain extraordinaire qui nous parle, nous, April, parce qu'on est évidemment une entreprise. C'est qu'il y a des lieux pour parler de santé. Il y a l'école, bien sûr. Il y a quand on est jeune adulte. Et puis, il y a un lieu extraordinaire qui est l'entreprise. Comment on peut parler de santé en entreprise? Et je ne parle pas que des risques socio-professionnels. Je parle de santé.
Et on y attend des résultats, bien sûr, à court terme.
On attend des résultats à court terme. Ouais. Les actions que je viens d'évoquer, elles vont être engagées d'ici la fin de l'année. On a publié sur le site de la Fondation April un premier livre blanc, un carnet d'experts, justement, sur la philosophie qui nous anime dans cette fondation autour des sciences comportementales. Et puis, on publiera régulièrement. Le but, c'est véritablement de partager nos travaux et de voir comment on peut participer à ce grand mouvement de prévention.
Eh bien, bravo, on va vous suivre. Et justement, on est très pressé d'avoir ces résultats qui, je suis sûr, seront très positifs. Merci beaucoup, Éric Momy. On va à présent accueillir Mehdi Chati, qui est directeur général de Sonoro et qui nous vient d'Allemagne, spécialement pour Check-up Santé, pour nous présenter Oscar.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Mehdi Chati, bonjour.
Bonjour.
Alors, bravo et merci, surtout de venir d'Allemagne pour nous, pour Check-up Santé.
Merci
hyper
à vous
sympa.
De me recevoir.
Vous êtes le directeur général de la société Sonoro, qui est basée en Allemagne, à Cologne, je crois.
C'est ça, à côté de Cologne, une ville qui s'appelle Neuss.
Donc, une boîte allemande. Petite boîte, mais qui va devenir très grosse bientôt.
C'est ce qu'on espère.
Vu les ventes que vous développez à toute vitesse. Alors donc, vous, votre société donc fabrique des produits audio.
C'est
votre
ça.
ADN, c'est ça. C'est fabriquer de l'audio, des chaînes IFI, etc.
C'est ça. On est une entreprise qui s'est spécialisée très rapidement dans des produits audio tout en un. Donc, ce qu'on appelle des chaînes IFI audio. Et petit à petit, on est monté en gamme et on fait maintenant beaucoup de produits de IFI, donc une qualité un peu supérieure. Donc, c'est ce que des amplificateurs, des enceintes, des platines, ce genre de produits. Et notre expertise audio nous a amené à développer le produit dont on va parler aujourd'hui. Oscar.
Justement, qu'est-ce qui a fait que vous pensiez à ces personnes qui n'entendaient pas très bien
L'histoire est intéressante parce que, comme je disais, on a une expertise dans le domaine audio. Et notre fondateur, son père, l'a contacté. Il lui a dit, écoute, tu travailles dans l'audio et j'ai de plus en plus de problèmes à comprendre la télévision. Est-ce que tu peux pas me développer un produit qui m'aiderait à mieux comprendre les dialogues à la télévision? Et c'est comme ça que le produit Oscar est né.
Et donc, vous avez donc développé des algorithmes,
hein, c'est ça,
qui ont isolé un petit peu les conversations dans la télé.
Absolument, absolument. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière Oscar, c'est un produit assez simple dans sa conception, mais assez complexe dans son mode de fonctionnement.
Assez simple dans l'utilisation.
C'est ça, l'utilisation est extrêmement simple. En fait, c'est un produit, c'est un amplificateur vocal pour la télévision, donc qui va être connecté à la télévision et qui va permettre de mieux comprendre les dialogues. Donc effectivement, on a développé un algorithme que nous avons développé en interne grâce à nos ingénieurs son. Un algorithme qui va justement prendre le signal de la télévision, filtrer les dialogues et les voix, donc qui sont classiquement les aigus, donc les mettre en avant, et atténuer tous les bruits parasites qui gênent la compréhension des dialogues.
Tous les bruits parasites de la télé,
de la télévision, des gens qui sont, de la télévision.
Ils sont dans le salon.
Ce qui fait que le signal de la télé va être déformé, et quand il va ressortir par l'appareil, ça va être un signal beaucoup plus clair et beaucoup plus intelligible. C'est très bien pour les personnes qui ont des problèmes à comprendre les dialogues et à entendre bien la télévision.
Ouais, c'est même, j'imagine que c'est même bien pour les VO.
Bien sûr. Donc, dès qu'il y a un peu de difficulté à comprendre les dialogues, quel que soit le type d'émission.
Parce que vous augmentez un peu les aigus, c'est ça.
C'est ça, on travaille sur les.
Donc, c'est sous forme de Bluetooth.
C'est ça, la connexion entre la station qui est connectée à la télé, la station de base qui est connectée, donc ça se connecte très facilement avec une prise jack ou une prise optique. La station est connectée à la télé et communique en Bluetooth avec l'appareil qu'on peut prendre sur soi. Donc
avec cet appareil d'ailleurs qui est très léger,
tout à fait. Et on peut le mettre donc sur sa table de salon, on peut le mettre sur le canapé, on peut même le prendre avec soi dans la cuisine quand on veut se lever pour aller dans la cuisine chercher quelque chose à boire, à manger. La télé nous
accompagne.
Une connexion qui va jusqu'à 30 mètres.
Ah oui, quand même.
Et l'appareil a une autonomie de jusqu'à 16 heures. Donc ça permet des heures de télévision ininterrompues.
D'accord. Et donc ça vous l'avez sorti il y a un an, deux ans, c'est ça?
Il est sorti l'année dernière. Et depuis, on connaît effectivement un succès phénoménal. On a essentiellement jusqu'à présent travaillé sur le marché de l'Allemagne. Mais là, on commence à se développer à l'international. Et le premier marché sur lequel on a travaillé, c'est la France.
C'est la France. Pays de personnes âgées, c'est ça?
Pas seulement la personnes âgées, mais il y a une certaine. Oui, c'est un progrès aussi.
Donc c'est vrai que vous êtes destiné surtout à cette population un petit peu plus senior.
Bien sûr, en fait, c'est vraiment un produit qui est très bien pour tous les gens qui commencent à avoir des problèmes en temps de la télé. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. C'est vraiment il y en a de plus en plus de gens qui ont des problèmes à comprendre la télé. L'audition, on perd l'audition avec l'âge, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et même quand on a une prothèse auditive, on peut aussi se servir d'Oscar.
Oui, en tout cas, ça ne remplace pas du tout. C'est pas du tout une prothèse auditive.
Ça ne remplace pas du tout.
Donc, évidemment, on peut le transporter jusqu'à 30 mètres, mais de soi-même, est-ce qu'on peut le mettre, il faut le mettre très près de soi-même, ou on peut le mettre à 2 mètres, 3 mètres?
C'est comme vous voulez. Vous le mettez à une distance qui est assez
convenable. De toute façon, il y a un volume.
Voilà, vous avez un bouton très simple, un bouton à l'ancienne, je dis souvent avec un clic, donc on sait exactement quand il est allumé, il est éteint. Ouais. Et ce bouton permet d'augmenter le son. Et vous avez aussi un deuxième bouton qui vous permet d'augmenter le filtre de la voix. Donc en fonction de vos problèmes d'audition, vous pouvez augmenter la performance de l'appareil.
Et une fois que vous l'avez utilisé, vous le remettez à charger sur sa base.
C'est ça. L'autonomie est de 16 heures.
Donc du téléviseur.
Une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut le reposer sur sa base et il va charger.
Donc c'est ici, l'appareil est disponible en France?
Il est disponible déjà. On le vend donc sur notre site web, on le vend sur certains réseaux de distribution online et il va être sous peu aussi disponible chez Fnac Darty.
D'accord, on peut connaître son coût?
Oui, il coûte 269 euros TTC.
TTC. Comment vous voyez donc l'avenir de l'audio en général et puis de votre société en particulier?
Sonoro est une entreprise qui se développe assez rapidement. Donc on n'est plus une start-up, on est déjà une entreprise bien établie. Donc l'entreprise a été créée en 2006, donc bientôt 17 ans. La marque Valeur, elle, a commencé depuis à peu près un an et demi. Mais Sonoro est en train de se développer donc sur le marché allemand. On développe nos portefeuilles de produits. Donc, comme je disais, on va monter en gamme. On va faire des produits de plus en plus hi-fi.
Concurrent de marque célèbre.
Oui, concurrent de marque célèbre. Donc, des produits qui vont permettre une très bonne qualité d'écoute, parce que c'est vraiment le cœur de notre entreprise, offrir une qualité de son exceptionnelle, une simplicité d'utilisation. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup chez Sonoro, c'est le design. On attache beaucoup d'importance à au look de nos produits. On aime faire des belles choses et donc
le
produit Oscar
la facilité
et la facilité d'utilisation, absolument.
Merci beaucoup.
Et ben, je vous
remercie beaucoup, bravo pour ce que vous faites pour nos seniors.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.